Chapitre 6e. Après mon transfert à la police judiciaire, on m'enferma dans une chambre qui, quoique très grande, me fit très mauvais effet. C'était une chambre comme il y en a dans les maisons ou les appartements trop grands, dans laquelle on avait mis pour la meubler une table et quelques chaises. Les quatre inspecteurs qui étaient entrés avec moi ne me donnaient pas individuellement une impression de force physique, à part l'un d'eux peut-être qui était un petit rablé. Ils avaient plutôt l'aspect de bureaucrates, mais il émane toujours d'un groupe d'hommes, même si aucun ne semble dangereux, une certaine puissance. On me pria de m'asseoir, puis, comme si je n'existais pas, ils parlèrent entre eux. Ils parlèrent de choses indifférentes ayant trait aux occupations ou distractions qu'ils avaient hors du service. Je remarquai que de temps en temps ils faisaient allusion à moi, mais sans me nommer de façon précise, comme si, par politesse, ils ne voulaient pas que je m'en aperçusse. « Il faudrait peut-être se mettre au travail, » disait-il parfois. « Ou bien, attendons encore un peu, il aime autant cela. » J'étais de plus en plus inquiet. Ce manège dura plus d'une heure. J'avais l'impression qu'on chercha à me faire sentir que c'était à cause de moi qu'on était obligé de rester là. Tant que j'avais circulé d'un bureau à l'autre entre deux inspecteurs, j'avais eu la sensation réconfortante, si l'on peut dire, que la justice suivrait son cours, et que même si les événements devaient mal tourner pour moi, je bénéficierais jusqu'au bout du droit que chacun culpé a de se défendre. Mais dans cette pièce, qui n'était ni une cellule ni un cabinet de juge, en compagnie de quatre hommes dont je ne m'expliquais pas le rôle, qui faisaient semblant d'ignorer que j'étais là et qui pourtant ne me quittaient pas, je commençais à me sentir envahi par une peur affreuse. Je me dis que, puisque j'affirmais être innocent, il me fallait trouver la force de jouer la comédie de la conscience sereine, pour montrer que dans mon innocence, je ne soupçonnais pas ce qu'on voulait. Je demandai enfin sur un ton naïf « Est-ce que nous allons rester longtemps ici ?» Un des policiers me répondit avec une parfaite obligeance, comme si nous étions les meilleurs amis. « Je ne crois pas. » Puis interrogeant ses collègues pour m'être agréable, « Est-ce que nous en avons encore pour longtemps ?» Ils s'interrompirent un instant de parler, mais ils ne répondirent pas. J'essayai alors de me persuader qu'ils attendaient un ordre, qu'ils trouvaient le temps aussi long que moi. De temps en temps, l'un d'eux me regardait. Quel qu'il fût, il avait toujours le même air. On eût dit qu'il me regardait en cachette des autres, que seul il savait que j'étais là. Un peu avant midi, un autre policier frappa à la porte et, constatant que nous occupions la pièce, se retira. Cet incident insignifiant me fit un bien immense. Nous n'étions donc pas seuls. Il y avait donc du monde autour de nous. On savait que nous étions là. Le policier n'avait pas été étonné de nous voir. N'importe qui pouvait entrer. Mais ma peur ne tarda pas à reparaître et de façon fort curieuse, à la suite d'un incident aussi insignifiant que celui qui m'avait rassuré. Un des policiers prit une chaise, la porta dans un coin de la pièce. Puis, se tournant vers moi, il me dit « Va t'asseoir là-bas ». J'obéis, mais à partir de ce moment, je ne pus m'empêcher de chercher la raison de ce geste étrange. Pourquoi me fait-on asseoir dans ce coin ? On frappa de nouveau. Un autre policier parut. En me voyant, il dit « Ah !» comme quelqu'un qui dérange et qui s'apprête à repartir. Ses collègues le retinrent. Ils lui parlèrent d'une partie de pêche qu'il projetait pour dimanche. À ce moment, l'un d'eux fit cette réserve qui me glaça. « Si nous sommes libres. »« Je vous laisse, » dit le nouveau venu, en personne qui respecte le travail. Le groupe reprit sa conversation. Ils allumèrent des cigarettes. Ils paraissaient m'avoir complètement oublié lorsque l'un d'eux me dit « Est-ce que tu veux une cigarette, toi ?» J'acceptai. Il me l'apporta, me donna du feu. Je le remerciai assez fort, avec l'espoir d'être entendu de tous. Personne ne détourna la tête. Quelqu'un entra encore, cette fois sans frapper. « On commence à en avoir assez !» s'écria un policier. D'être dérangé toutes les 5 minutes. » Détail curieux, en prononçant ces mots, il me regarda en souriant, comme si moi aussi j'en avais assez. « Est-ce que tu restes » continua-t-il en s'adressant toujours au même important. « Où est-ce que tu t'en vas ? Parce que maintenant je ferme ma clé. » Ma cigarette toute blanche montrait que ma main tremblait. Je voulus la garder à la bouche, mais j'avais un goût tellement amer que je la jetais. J'entendis à ce moment une voix dire « Il faudrait tout de même aller chercher quelque chose à manger. » cette même voix continua, « Est-ce que tu veux manger quelque chose ?» Je ne savais pas qui me parlait. Je répondis en regardant tout le monde et en essayant de paraître ravi de cette idée, « Oui, oui, je voudrais bien. » Bientôt, un policier reparut avec une assiette. Cette assiette était couverte par une autre sur laquelle était posé un verre, un demi-septier de vin, un morceau de pain. Il tenait tout cela maladroitement. « Nous aussi, nous allons manger, » dit-il. Deux des policiers s'en allèrent. Les autres restèrent près de moi. À 3 heures de l'après-midi, nous nous retrouvâmes au complet. « Alors, comment ça va ?» me demanda-t-on. Mes joues étaient brûlantes. J'avais beau mouiller mes lèvres à chaque instant, une sorte de pellicule gluante les recouvrait presque aussitôt. Mais j'étais décidé à ne pas laisser voir ma frayeur. L'un d'eux s'approcha de moi et me dit « Alors mon gars, comment ça va ?» Je répondis que ça allait très bien, en souriant de manière à laisser entendre autant que ça peut aller dans une pareille situation. Il prit une chaise et s'asseyant en face de moi, cependant que les autres inspecteurs continuaient de parler entre eux, il me dit qu'en effet j'étais dans une drôle de situation. Puis, parlant de la police comme s'il n'en faisait pas partie, « Ils n'ont pas été chics avec toi. » Je répondis que ce n'était pas leur faute à eux, que c'était certainement celle d'une femme. Je pensais, je ne sais pourquoi, à Lucienne. « Oh, les femmes, c'est toujours comme ça !» Puis, appelant ses collègues, il leur parla, mais ils firent semblant de ne pas s'intéresser à ce qu'il disait. Alors il cria plus fort. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandèrent-ils. « C'est une femme qui l'a donnée. » Ils me regardaient tous en feignant d'apprendre une nouvelle, comme si ce fait changeait tout. À ce moment, je ne sais pourquoi, je fus pris de courage. Voyant que tout le monde me regardait et que personne n'avait l'air de m'en vouloir, je crus bien faire en m'adressant à tous. Je me mis à parler très vite, à dire que je n'étais pas celui qu'on recherchait. Je m'appelais Tinet et non Talouet. Dans mon ardeur, je me levais comme si j'avais affaire à un auditoire bien disposé. Mais j'entendis un policier dire « Assis, assis !» Comme je n'obéissais pas, mon voisin me prit le bras et, avec une certaine brutalité, m'obligea à m'asseoir. « Elle t'a dénoncé, c'est ça que tu veux dire ?» Je protestais. Il frappa sur l'épaule d'un de ses collègues. Ce dernier, comme si on le dérangeait, dit « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Bien, bien. » Comme à contre-cœur, il s'assit près de moi. Cela me faisait une impression étrange, d'être assis à côté de ces deux hommes, sans table entre nous. « Tu ferais mieux de dire la vérité. Nous savons bien que tu t'appelles Talouet. » Quelques instants plus tard, comme on me redonnait le même conseil à peu près dans les mêmes termes, j'eus conscience du danger effroyable qui me guettait. J'avais eu foi en moi. J'avais pensé que je saurais toujours répondre à toutes ces questions. Et voilà que je m'apercevais que je faiblissais, qu'il arriverait un moment où je ne pourrais plus parler, où mes explications n'auraient plus aucune importance, où il faudrait que je dise oui ou non, c'est tout. Je répétais néanmoins pour la 10e fois que je m'appelais Tinet. Un espoir s'était glissé en moi lorsque j'entendis « Tu ferais mieux de dire la vérité. » J'avais encore de l'énergie et je criais comme avant « Mais je dis la vérité. » Et je refis le récit des circonstances qui, selon moi, m'avaient fait prendre pour un autre. De nouveau, j'entendis « Tu ferais mieux de dire la vérité. » Je voulais crier encore, mais j'avais tellement parlé que cela me fut impossible. « Tu vois, » dit un policier, faisant semblant d'interpréter mon silence comme un aveu, « tu le reconnais toi-même. » Je protestais avec véhémence. Un policier s'approcha. « Allons, » dit-il en me frappant paternellement sur l'épaule, « tu ferais mieux de dire la vérité. » Je criais que je disais la vérité. « Mais non, tu ne dis pas la vérité. » J'entendis alors deux autres policiers dire « il ne veut pas dire la vérité. » Je criais que je disais la vérité. Fait étrange, je sentais que les policiers ne me prenaient pas pour un vulgaire malfaiteur et qu'avec un autre, ils n'eussent sans doute pas insisté tellement sur la vérité. Ils croyaient que la vérité était mon idée fixe et chaque fois qu'ils voulaient faire vibrer chez moi une corde sensible, ils disaient la vérité. Comme je n'étais pas endurci, ils avaient pensé qu'avec la douceur, ils me feraient avouer.